18h10 sur France Culture, tout de suite Dimanche Soir Politique. Et Benoît Bouscarel, ce soir, vous nous parlez de l'indécision des électeurs.
Oui, bonsoir Kevin.
Bonsoir.
Nous sommes à tout juste une semaine du premier tour et les différentes enquêtes d'opinion ces temps-ci montrent toutes, à quelques variations près, que l'indécision reste à un niveau tout à fait inédit. La cristallisation du vote est plus tardive visiblement que d'habitude. Les électorats sont encore changeants et on l'observe d'ailleurs dans les dynamiques qui semblent à l'œuvre ces derniers jours en faveur de quelques candidats, et c'est ce qui concrétise le resserrement qu'on observe dans les intentions de vote. Un électeur sur quatre serait en réalité encore dans le flou, ne trouvant pas franchement dans l'offre proposée dans la liste des 11 candidats en lice de quoi s'enthousiasmer franchement. On en parle ce soir avec notre invitée Anne Muxel du CEVIPOF. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, directrice de recherche en sciences politiques. L'indécision, évidemment, ne facilite pas le travail des sondeurs, ni des observateurs ou des analystes. Néanmoins, est-ce que ce taux est réellement inédit, selon vous, pour une élection comme celle-là? Et comment est-ce que vous l'expliquez?
Ce qui est particulier pour cette élection, c'est qu'on a à la fois encore une forte indécision à quand même quelques jours maintenant du scrutin. D'habitude, l'indécision se réduit davantage à l'approche du scrutin, et elle prend un relief singulier parce que on a là une offre politique qui se tient dans un mouchoir de poche quant aux intentions de vote et aux intentions de suffrage qui sont au jour d'aujourd'hui exprimé. Donc ça crée un climat assez inédit, avec une tension où l'on sent à la fois beaucoup de perplexité et une compétitivité finalement particulièrement exacerbée. Donc ça, je crois que c'est un peu la marque de fabrique de cette élection à 8 jours maintenant du premier tour.
On semble être un peu plus indécis à gauche en ce moment.
Oui, il semblerait que cette indécision pèse à gauche, mais elle pèse aussi à droite. Elle grignote un petit peu tous les électorats, même si l'électorat de François Fillon et l'électorat de Marine Le Pen semblent, au jour d'aujourd'hui et même depuis un certain temps, mieux consolidés. Mais on voit bien que des revirements de dernière minute peuvent encore opérer. On est vraiment dans un temps de grande incertitude.
Comment est-ce que vous analysez justement la dynamique Mélenchon, celle dont on parle là depuis quelques jours dans les enquêtes d'opinion, à la lumière de cette question de l'indécision?
Tout d'abord, il a d'abord fait une bonne campagne. Je pense que c'est admis et remarqué par tout le monde. Et puis, il bénéficie sans doute d'une plus grande incertitude de la gauche, des électeurs de gauche face à une crise de leadership à gauche qui a été sans doute peut-être encore plus marquée que pour la droite, même si la droite n'y a pas échappé avec l'affaire Fillon notamment. Et l'on voit bien que là, face à un électorat très 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 indécis, très incertain, eh bien une campagne, une dynamique de campagne dans les derniers temps d'un scrutin peut évidemment encore chambouler les choses et opérer des transferts de dernière minute qui peuvent être, au bout du compte, tout à fait significatifs.
Est-ce que, dans un autre sens, l'indécision ne peut pas favoriser, d'une certaine manière, une forme de vote utile ?
Oui, en tout cas, la question du vote utile aura pesé et pèse encore jusqu'au bout. Et je pense qu'il y a beaucoup d'électeurs, notamment à gauche, qui peuvent attendre jusqu'au dernier moment pour prendre la décision de ce vote utile. Et il est bien évident que aujourd'hui, l'électeur est confronté de façon beaucoup plus rationnelle, je dirais, jusqu'au dernier moment, peut-être de façon un peu plus calculée quant à son vote que jadis, où les loyautés partisanes, les fidélités envers des candidats étaient beaucoup plus structurées. Aujourd'hui, l'individualisation du vote conduit aussi à ces remaniements jusqu'au bout, à ces réajustements de la décision qui peuvent peser jusqu'au bout, voire jusqu'au vote d'isoloir le jour même du scrutin.
C'est-à-dire qu'assez classiquement, il y a cette question de la défiance envers les politiques, il y a les affaires qui s'accumulent, mais plus généralement, vous y voyez aussi l'œuvre de cette crise de la représentation dont on parle depuis longtemps maintenant.
Oui, de toute évidence, cette crise de la représentation politique ne se résorbe pas du tout. Elle a même tendance encore à se renforcer. Et la tentation, par exemple, des votes protestataires, du vote protestataire aux extrêmes de l'échiquier politique, concerne aujourd'hui séduit beaucoup d'électeurs, mais s'ajoute à ça la tentation de l'abstention, la tentation du vote blanc qui probablement est aussi plus marquée pour ce scrutin qu'à d'autres scrutins. On voit bien là qu'il y a de la part des électeurs des tentatives au travers de tous ces votes d'exprimer une sorte de mécontentement à l'égard des grands partis de gouvernement, à l'égard de l'offre politique et électorale classique, donc l'envie finalement de bousculer les choses. Et puis Emmanuel Macron, de son côté, eh bien il capte aussi des voix d'électeurs qui cherchent aussi de nouvelles lignes de clivage, qui cherchent un renouveau politique. Donc on voit bien que de ce point de vue-là, cette élection est tout à fait intéressante.
Merci beaucoup Anne Muxel.